outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought
lundi 1er décembre 2015, Pôle Nord. Dans sa maison, le Père Noël est déjà au travail.
Petit Papa Noël, quand je descendrai du ciel avec des... Oh, 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 bonjour, qui es-tu, jeune homme?
Wesh, vas-y, moi c'est Kevin.
Et que viens-tu faire ici?
Ah, c'est Paul qui m'envoie.
Paul? Quel Paul?
Bah, Paul de chez Paul.
Paul de chez Paul? Je ne connais pas la famille de chez Paul. Pourtant, je connais tout le monde.
Non, Paul, comme le prénom, vas-y, et plus loin, de chez Paul.
Ah, le boulanger, Paul.
Non, vas-y, le conseiller, Paul.
Oh, mais le conseiller de qui?
Bah, celui de Paul. Paul, le prénom, de chez Paul, P-O-L-E.
Ah, le pôle. Mais lequel? Le pôle sud?
Oh, le relou, non, l'autre.
Le pôle nord? Mais c'est ici, le pôle nord.
Wesh, non, le pôle emploi.
Ah, enfin, c'est Claire.
Oh bah non, Claire, c'est la bonasse, elle est partie, je vous dis, c'est Paul.
Claire ou Paul, je me souviens surtout de l'annonce que j'ai passée pour trouver un apprenti. Mais je n'ai vu personne. Je croyais que ça n'avait pas fait de buzz.
Ouais, je crois bien que c'est passé sous le buzz, ouais. Mais heureusement, il y a Yarnibus, il est là pour nous dénicher des perles de sous le buzz. Alors on l'écoute tout de suite.
Bah c'est quoi ce Jerry?
Sous le buzz, par Yarnibus.
Salut les joueurs, salut les joueuses, salut la Broxy Team. Le fait de voir ce jeu bradé à 9€ lors du dernier Salon des Salles m'a donné envie de vous en reparler. J'avais dans l'idée d'en parler avant les vacances dans la saison précédente, et puis finalement, j'ai pas eu le temps, donc je décide de réactiver ça. Sortez vos piques et vos pioches, nous n'allons pas creuser pour du charbon, mais cette fois-ci pour du spérium. Spérium est un jeu sorti chez Starry en 2013. Il a été créé par William Atia, à qui on doit également Kélus. Il est dessiné, je vous le donne en mille, par Arnaud Demagde et Neriac. Dans Spérium, qui se passe donc dans une Angleterre victorienne imaginaire, puisque le charbon a été remplacé par une autre ressource qui est le spérium, vous allez devoir donc développer en fait votre stratégie autour de l'extraction, la transformation de ce minerai, donc le spérium. Cette transformation vous rapportant des points de victoire que vous pourrez gagner également en achetant des bâtiments de prestige, un peu comme dans son grand frère. Spérium va se dérouler en 3 âges. Dans chacun des âges, 9 bâtiments aux personnages vont être mis, ils sont représentés sous forme de cartes. Ensuite, les joueurs, chaque âge va avoir 2 phases, et les joueurs vont choisir dans la première phase de déposer leurs ouvriers entre 2 cartes. À un moment donné, les joueurs choisiront non plus de poser leurs ouvriers, mais de les retirer. Et les ouvriers qui le retireront, donc ces ouvriers qui seront entre les 2 cartes, ils pourront profiter d'une des 2 cartes adjacentes à leur ouvrier, soit en l'achetant et en la payant le prix de la carte plus le nombre d'ouvriers adverses ou pas restant autour de cette carte, ou alors en retirant ces ouvriers pour gagner de l'argent, et ils gagneront une unité d'argent pour chaque ouvrier présent autour de cette carte également. Donc dans Spérium, vous allez avoir à gérer le flux d'argent, puisqu'il va falloir il va vous faire de l'argent pour acheter les cartes, et donc cet argent, vous allez le récupérer en retirant au bon moment vos ouvriers. Il ne faudra pas retirer non plus trop tôt vos ouvriers si vous voulez profiter des cartes adjacentes. Les ouvriers, vous allez pouvoir également les utiliser sur les cartes que vous avez déjà achetées pour les activer, pour qu'elles produisent du spérium, qu'elles transforment du spérium. En complément, à chaque âge, Un événement va avoir lieu, événement qui vous permettra de gagner un peu plus facilement du spérium ou de l'argent ou de rejouer un tour, etc., etc. Lors du dernier âge, les bâtiments de prestige arrivent. Ils coûtent relativement cher, apportent beaucoup de points de victoire et donc c'est un petit peu la foire d'empoigne sur ces derniers âges. Il existe également un mécanisme un peu de guilde, ça s'appelle les brevets, donc c'est des brevets que vous allez acheter un peu comme les cartes, de la même manière que les cartes, et qui vous feront gagner jusqu'à 7 points de victoire par brevet en fonction de stratégies que vous avez pu développer. Par exemple, s'il vous reste beaucoup de grains de spirium, ou si vous avez beaucoup d'argent, beaucoup d'ouvriers, etc., etc. Pour moi, spirium est une vraie réussite. Alors, au-delà du thème qui peut être fortement critiqué, puisqu'en fait, Istari voulait faire quelque chose d'un peu steampunk, et finalement, en fait, il y a une homothétie entre le spirium et le charbon. On ne voit pas bien la différence qu'il y a, en tout cas, au niveau des illustrations, au niveau du mécanisme du jeu. Ça aurait pu s'appeler charbon, on aurait pu faire de l'extraction de charbon, ça aurait été la même chose. Mais dans ce type de jeu, comme vous le savez très bien, c'est pas tellement le thème qui nous intéresse. Spirium renouvelle complètement le jeu de placement d'ouvriers, selon moi, et c'est une très bonne chose que ce soit également le papa des jeux d'ouvriers, donc William Attia, qui renouvelle lui-même sa création, puisque au-delà du placement d'ouvriers qui va vous permettre de développer votre stratégie ou d'utiliser vos bâtiments, il y a une vraie cadence à avoir entre quand est-ce que je place, quand est-ce que je retire mes ouvriers et pour en faire quoi. Est-ce que c'est pour dépenser de l'argent, est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Il y a une vraie plus-value dans ce jeu par rapport aux autres jeux d'ouvriers. En plus, ce jeu, et là c'est hyper intéressant, se joue aussi bien à 2, 3, 4 et jusqu'à 5 joueurs, et vous allez développer vraiment des stratégies différentes selon le nombre de joueurs, parce que c'est pas du tout, vous n'allez pas avoir du tout la même. Par exemple, quand vous êtes à 5, vous pouvez espérer gagner beaucoup d'argent en retirant vos ouvriers, puisque vous pouvez espérer qu'il y a énormément, ou beaucoup en tout cas, d'autres ouvriers autour de la carte que vous voulez jouer. Alors qu'à deux personnes, il est possible justement de se développer chacun un petit peu dans son coin et d'avoir de grandes difficultés à récupérer de l'argent. Donc c'est vraiment des stratégies différentes que vous allez mettre en œuvre en fonction du nombre de joueurs. Donc comme vous le savez, enfin, pour moi c'est une vraie réussite et je vous engage vraiment à essayer ce jeu. Pas de conseils de proximité ce mois-ci, j'espère en avoir le mois prochain pour notre prochaine chronique, et d'ici là, jouez bien.
Il est intéressant ce Yannibus. Mais allons-y, on a du pain sur la planche, nous allons faire le tour du propriétaire.
Wesh, si tu veux gros.
Je ne suis pas gros, c'est une musculature réglementaire dans mon métier.
Ouais, si tu le dis vieux.
Je ne suis pas... Bon, ça c'est vrai, mais n'en parlons plus. Viens, et entre ici, jeune malin.
Entre ici, jeune malin, avec ton terrible cortège.
Oh, arrêtez, vous me faites flipper, là. Et c'est quoi cet endroit-là? On dirait la bibliothèque d'Hannibal Lecter, tellement il y a de livres.
Ici, c'est mon bureau. Ce ne sont pas des livres, ce sont mes dossiers, des commandes au Père Noël. Je lis toutes les lettres que l'on m'envoie, j'édite des bons de commande aux lutins, qui me remettent le jouet et un bon de livraison. Et je livre.
Oh, c'est relou, cette paperasse. Ils peuvent pas envoyer des tweets, les bolos.
Non. Ici, on travaille à l'ancienne. C'est ce qu'on appelle la tradition.
Ça serait tellement plus simple avec une vidéo YouTube.
You quoi?
YouTube, vous connaissez pas? Cyprien, Squeezie, Norman?
Ah ça oui, je connais les sapins Norman.
Oh, t'es relou. Tais-moi mon portable. Je te montre une vidéo de Fendoel sur les plateaux numériques.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Fendoel et aujourd'hui je vous présente Le Havre, port fluvial sur Android. Le Havre, port fluvial est un jeu de société de Uwe Rosenberg, édité chez Philosophia en 2012. Alors attention, il ne faut pas confondre Le Havre tout court et Le Havre, port fluvial. Les deux jeux reprennent certaines mécaniques, mais sont quand même bien différents. Le premier d'ailleurs se joue de 1 à 5 joueurs, tandis que le port fluvial, c'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs. Donc en fait, il s'agit d'un jeu de plateau sur lequel les joueurs vont acquérir des bâtiments, qui leur fourniront des ressources pour acquérir d'autres bâtiments, etc. Les bâtiments rapportent des points de victoire et celui qui en a le plus remporte évidemment la partie. Ce qui rend ce jeu plaisant, c'est une mécanique de passage du temps. Alors je m'explique, plus vous utilisez votre bâtiment tard, et plus il est puissant. Et quand vous l'utilisez, il retourne à sa position initiale, donc la moins puissante. Et le truc en plus, c'est que votre adversaire peut également servir du bâtiment. Vous avez un équilibre entre savoir si vous l'utilisez tout de suite ou plus tard, il sera plus puissant, mais peut-être que mon adversaire me l'aura piqué entre-temps. Bref, il y a beaucoup d'interactions dans ce jeu à deux et je l'aime beaucoup. La version numérique est adaptée par DigiDiced, à qui on doit rien du tout en fait, et il est sorti sur Android en 2012 et iOS un petit peu avant.
Oh, Le Havre, quelle belle ville! C'est la ville où on peut laisser libre cours à ses flatulences.
Ah c'est quoi? Comment ça quoi?
C'est ce qu'on appelle le Havre de paix. Oui, petit lutin, elle fonctionne très bien ta batterie. Tu peux l'emballer.
Et vas-y papy, c'est quoi toutes ces photos sur le mur? C'est des voleurs de jouets, le tableau des suspects?
Petit insolent, c'est mes meilleurs apprentis.
Ah c'est comme les employés du mois chez McDo. Ils restent pas, vous abusez du turnover.
Non, je ne bois jamais. Le nez rouge, c'est à cause du froid. C'est eux qui sont partis. Ils sont allés chez Philibert.
Philibert, le site internet de vente de jeux de société?
Oui, et c'est aussi une grande boutique à Strasbourg, la capitale de Noël.
Ouais, en fait, ouais, ça va se voir qu'on leur fait de la pub, en fait, pas trop, quoi. Mieux vaudrait faire un concours de RT sur Twitter, hein, ou une déco de site bariolé avec des pubs partout qui clignotent, ce serait plus discret, quoi.
Oh, ça me fait penser à un ancien site de jeu, mais je n'arrive plus à aller dessus. Ma connexion internet est en 56K et j'ai un vieil ordi sous Netscape. Le temps que la page d'accueil se charge, on est passé à l'année prochaine.
Ah, vous parlez Trick-Track, là?
Oui, c'est ça. Mais j'ose pas critiquer. Oh, oh, oh. Le webmaster est persuadé que je veux lui piquer son taf parce que je suis plus barbu que lui.
Pff, tous ces vieux qui s'accrochent à leur poste. Comment vous voulez que vous, que nous, les jeunes, on trouve du travail dans ces conditions?
Oh.
Non, non, vous vexez pas, je disais pas ça pour vous. La tradition, tout ça, ça a du bon, quoi. Je le vois bien. Est-ce qu'un jour, je pourrais aussi avoir ma photo sur le mur, vous croyez?
Oh, oh, oh. Doucement, petit bonhomme. Ce sont que les meilleurs qui ont leur photo sur le mur.
Vous pensez qu'un jour, je serai dans le top 500 des meilleurs stagiaires?
À toi de jouer. Travaille bien. Tiens, viens donc écouter Père Castor qui nous parle du top 500 de BGG.
Salut les joueuses, salut les joueurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 500 BGG. J'ai aujourd'hui dans les mains la boîte d'Archipelago. Archipelago est un jeu de Christophe Bollinger qui est sorti en 2012 et qui est édité par Ludicali. Il pointe actuellement à la 221e place au classement BGG. Le jeu est jouable de 2 à 5 joueurs. Le jeu vous propose de prendre la tête d'un corps expéditionnaire d'une nation européenne pour découvrir, explorer et exploiter les archipels à l'époque des grandes découvertes des 15e et 16e siècles. Chaque joueur va recevoir une carte objectif cachée qui décrit une condition de fin de partie et une condition de score. La partie s'arrête dès qu'une des conditions de fin de partie est atteinte et chaque joueur est capable de scorer sur l'ensemble des objectifs de chaque joueur. En début de partie, chaque joueur va posséder un bateau, deux ouvriers et 10 florins. Tous les joueurs démarrent la partie avec leur bateau qui est placé sur une tuile représentant la pleine mer. Chacun va effectuer une première exploration qui va permettre de positionner les premières tuiles qui formeront l'archipel. Cette première exploration permet de rencontrer les premiers autochtones et de récolter les premières ressources. Et à son tour, chaque joueur a le choix parmi un large panel d'actions. Il pourra récolter des ressources, explorer, embaucher des autochtones, augmenter la population par la reproduction, construire des bâtiments, déplacer sa population, acheter et vendre des ressources. Les ressources financières tiennent une place importante dans le jeu. Il est possible de réaliser des transactions de ressources sur le marché local de l'archipel et également sur le marché à l'export à destination de la métropole. Les prix varient selon les marchés et aussi selon la quantité en stock. L'opportunisme est de mise. Après la phase d'action, commence la phase d'achat des cartes. Les joueurs auront la possibilité, s'ils le souhaitent, d'acheter des cartes progrès ou des cartes personnages qui viendront les aider dans leurs actions. Le prix de ces cartes évoluera au fil des tours. Vient alors un nouveau tour de jeu qui démarre par une phase d'enchères pour déterminer l'ordre du tour. On enchaîne ensuite les tours jusqu'au déclenchement d'une des conditions de fin de partie. Le jeu a la saveur d'un 3X avec les facettes exploration, expansion-développement et exploitation des ressources. Il offre également un savant mélange de compétition et de semi-coopération. En effet, à chaque tour, les joueurs devront maintenir l'équilibre de l'archipel, sinon c'est la défaite pour tous les joueurs. Cet équilibre est matérialisé par trois curseurs. Le premier curseur représente le marqueur de population, le deuxième curseur représente le marqueur du chômage, et le dernier curseur représente le marqueur de révolte. Si jamais le marqueur de révolte dépasse le marqueur de population, c'est la défaite pour tous les joueurs. En plus, ces trois marqueurs sont liés entre eux par un effet domino. Plus de population va entraîner plus de chômage, et plus de chômage va entraîner plus de révolte. Et un paramètre supplémentaire est à prendre en compte, la surproduction de certaines ressources va également entraîner plus de chômage. À chaque tour, les joueurs devront également faire face à un certain nombre de crises qui vont venir consommer des ressources. Ces ressources pourront être soit prises dans les stocks des marchés, soit devront être fournies par le stock personnel des joueurs. Et chaque ressource non fournie entraînera une augmentation de la révolte. Si la crise a lieu sur le marché intérieur, chaque cube de ressources non fournie pour satisfaire les besoins va entraîner une révolte des ouvriers et ils ne pourront pas être utilisés pendant ce tour. Pour couronner le tout, un des objectifs joueurs est justement de faire en sorte que la révolte éclate. C'est le rôle de l'indépendantiste. Ainsi, il sera le seul à gagner si jamais la révolte éclate dans l'archipel. Ce rôle est très intéressant à jouer, surtout si avec vos talents de persuasion, vous faites croire que cet objectif n'est pas en jeu, ou encore mieux, il est l'objectif d'un autre joueur. Concernant le matériel, on a affaire à une boîte qui est bien remplie. On va avoir des plateaux de jeu pour les différents curseurs de population, de chômage et de révolte. On va avoir des pièces en bois pour les ouvriers et les bateaux. Et enfin, on aura un certain nombre de jetons cartonnés pour les bâtiments. J'ai également beaucoup apprécié les graphismes qui sont très réussis. Et on prend beaucoup de plaisir à explorer et à construire l'archipel avec des tuiles dont les graphismes sont vraiment magnifiques. Et le grand nombre de tuiles garantit à chaque partie de construire une configuration de cartes qui est tout le temps unique. Une des difficultés du jeu, c'est la complexité des règles. On a pas mal de paramètres à intégrer, mais une fois passé quelques parties, la mécanique est bien huilée. La durée de la partie va surtout dépendre de l'aspect discussion et négociation autour de la table. En plus, les objectifs existent en trois longueurs de partie. On pourra jouer des parties courtes, moyennes et longues. J'apprécie beaucoup Archipelago pour sa dualité jeu de gestion, jeu de négociation. On va avoir énormément d'interactions entre les joueurs, on va pouvoir s'échanger des ressources, on va pouvoir se faire des promesses et également des coups bas. L'éventuelle présence de l'indépendantiste en jeu va également rajouter une bonne dose de suspicion. Pour conclure, si vous rêvez de découvrir de nouveaux horizons, essayez Archipelago et d'ici là, jouez bien.
Ouais, c'est chambé, il nous a réchauffé avec Archipelago, le père Castor, hein, parce qu'on se pèle le cul ici.
C'est normal, c'est le pôle Nord. Voici mon atelier. C'est là que les lutins fabriquent les cadeaux.
Vraiment ? Je croyais que c'était les petits chinois qui fabriquaient les jouets.
Non, ça c'est ce qu'on fait croire aux parents pour qu'ils gardent l'esprit de Noël.
Donc tous les jouets, ils sont fabriqués ici au pôle Nord ?
Bien sûr, mon petit.
Oh, même les jouets sexy qu'on offre à sa femme un peu pour pimenter un peu la vie dans le mariage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein ?
Oui, enfin, non, enfin, ça se passe plutôt avec la mère Noël, tout ça. Mais oui, c'est bien ici.
Ah ouais, je vois le lutin, là, jouer avec son gros...
Marteau. Il joue avec son gros marteau. C'est Ultra Lord, mon lutin. Lui et Courju, ils vont t'expliquer les rudiments de la fabrication de jeux. Tais-toi donc et écoute-les.
Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Ça va trancher, chérie.
Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.
Ah bon?
Mais oui, t'étais où pendant le film, toi?
Ah mais non.
Je vous ai prévenu, ça va trancher. Salut les joueurs, salut les joueuses, salut la Proxy Team. Ici Courju. Je vous présente une nouvelle rubrique dans Proxy Jeu, dédiée toujours au print and play et au do-it-yourself. Chronique qui sera toujours plus courte, avec un focus sur un jeu en particulier ou sur une technique en particulier, ou éventuellement s'il y a lieu sur une news en particulier. Ça sera une chronique solo, ce qui pourra éviter les divagations. Bien sûr, il y aura toujours des chroniques avec Ultra Lord, qui seront donc, comme vous en avez l'habitude, plus longues, plus sujettes à des débats, à des discussions entre nous. Voilà, sans plus tarder, ce soir une chronique donc jeu. Je vous présente un jeu qui a participé au concours de design de jeux pour enfants sur Board Game Geek. Donc le jeu s'appelle Card Driven Cars. J'ai traduit en français par course de cartes. Et donc j'ai traduit les règles. Je vous donnerai toutes les infos sur le billet de l'émission. Allez, sans plus tarder, la présentation du jeu. À bientôt. Card Driven Cars est un jeu de course pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans. Le but du jeu est d'être le premier joueur à boucler un tour de circuit. Le jeu se compose de plusieurs plateaux de jeu, de petites voitures et de cartes. Chaque plateau de jeu représente un circuit différent. Les cartes vont permettre aux joueurs d'avancer leur voiture sur le circuit. À la mise en place, on place l'un des circuits au centre de la table. On donne à chaque joueur 5 cartes au hasard. Le joueur le plus jeune pose sa voiture juste derrière la ligne de départ. Les autres joueurs classent leur voiture en suivant. À son tour de jeu, un joueur peut jouer autant de cartes de sa main qu'il le désire et avancer sa voiture en fonction des cartes qu'il joue. Les cartes représentent des lignes droites ou des virages. Il est donc nécessaire de disposer de la carte correspondant à la case vers laquelle vous voulez vous rendre. Par exemple, si devant votre voiture se situent 2 cases en ligne droite puis un virage vers la gauche, vous pourrez jouer 2 cartes avance puis une carte gauche. À la fin de son tour, le joueur peut défausser autant de cartes de sa main qu'il le désire. Puis il refait sa main à 5 cartes. Lors du déplacement, il est autorisé de passer sur une case occupée par une autre voiture. Par contre, on ne peut pas terminer son tour sur une case occupée. Lors de son tour, un joueur qui ne peut jouer aucune carte est autorisé à avancer sa voiture d'une case, seulement si la case devant lui est libre. Puis il peut se défausser d'autant de cartes de sa main qu'il le désire et refaire sa main à 5 cartes. Card Driven Cars est un jeu de Pelle Nilsson. C'est un jeu qui participe au concours de design de jeux pour enfants de 2015. Vous pouvez trouver les fichiers sur le forum de Board Game Geek, dans la section Work in Progress, ou tout simplement en tapant sur Google Card Driven Cars 2015 Children Design Contest. Mon avis sur ce jeu. Ce jeu permet aux enfants de manipuler les directions gauche et droite, d'un point de vue qui n'est pas forcément le leur, puisque la voiture peut leur faire face ou être perpendiculaire à leur champ de vision. Ils vont donc devoir visualiser la direction de la voiture en fonction des cartes et de la position de la voiture, et non pas en fonction de leur propre point de vue. Les cartes sont bien faites, puisqu'elles représentent la voiture et la piste, et donc on peut positionner la carte visuellement dans le sens de la voiture pour voir de quel côté la voiture se dirige. Le jeu offre aussi aux joueurs la possibilité de comprendre le principe de la gestion de main. Il faut conserver certaines cartes pour plus tard, mais en défausser d'autres pour avoir plus de chances de piocher les cartes dont on a besoin. Et voilà pour cette première chronique. J'espère que ça vous aura plu. Le format court comme ça. N'hésitez pas à me faire vos retours, bien sûr.
Et maintenant que vous savez quoi faire avec vos 10 doigts, jouez bien!
En fait, ils travaillent en binôme. Il y en a un qui construit et l'autre qui regarde. C'est comme à la DDE. Il ne leur manque que les gilets orange.
Oh, la DDE, les tractopelles, les routes enneigées. Justement, voici le clou de la visite. Mon garage.
Ouais, vas-y, monte ta caisse.
Ma caisse, mais non. C'est un traîneau.
Un traîneau c'est pas le swag. Moi, je croyais que c'était pour le folklore, que t'avais un truc un peu plus stylé, quoi.
Comme quoi?
Bah je sais pas, une Subaru 250 chevaux ou une estafette 2 chevaux Citroën pimpé hipster.
Oh mais non, pas de Citroën, j'ai un traîneau sirène.
Ah comme Ariel de chez Disney?
Ariel la lessive?
Non, la sirène.
Mais je ne vais pas sous l'eau, mais sur la neige. C'est pourquoi j'ai le Rudolf et ses amis.
Rudolf, c'est le mec qui brosse les rennes là?
Mais non, c'est le renne. Le mec qui brosse, c'est Cyrus, mon mécano viking. Il revient de raid sur la côte. Écoutons-le.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de Endlist. Endlist, un jeu sorti pour Essen, chez Mayfair en anglais, chez Lookout en allemand, et qui était très attendu de certaines personnes de la Proxy Team. Pour cause, il s'agit du dernier jeu à deux de Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg s'est fait une spécialité de ses jeux à deux. Son précédent patchwork a emballé nos cœurs de joueurs. Alors, que vaut Endlist ? Le pitch pour commencer. 30 années ont passé depuis que les Romains ont quitté la Grande-Bretagne, les Pictes et les Scots montent en puissance et commencent à conquérir des terres. Le grand chef Vortigern a demandé aux frères saxons Endlist et Orsa de venir à sa rescousse. Bon, voilà ce qu'on peut lire pour la mise en jambe. Concrètement, chaque joueur incarne un clan viking qui va tenter de piller des villages afin de s'enrichir. À la fin de la partie, c'est le joueur à la tête du clan le plus riche qui gagne. Chaque joueur possède 3 pions, qui sont appelés des groupes de vikings, ce qui va amener d'ailleurs quelques confusions pour certaines personnes dans les règles du jeu. Les 6 pions embarquent dans un très joli drakkar, réalisé en carton et en 3D, façon Cold Express ou Celestia. Le drakkar est placé au bord d'un plateau qui est composé de 3 grandes tuiles adjacentes, qui vont former un paysage, avec au nord la plage, au sud les villages représentés par des jetons trésors, qu'il faut donc ramasser. Et entre les deux, un parcours avec des types de terrains différents, symbolisés par des pictogrammes. Et il y a 6 types de terrains. Les joueurs vont avoir des cartes en main qui sont de deux types. Certaines représentent un ou plusieurs terrains, et d'autres sont des jokers. Alors comment on joue ? Les joueurs vont jouer chacun leur tour, et vont pouvoir faire une action avec chacun de leurs jetons. C'est là qu'il y a parfois confusion dans les règles. J'ai pu lire sur certains forums des gens qui comprenaient qu'ils avaient 3 actions. Or, ce n'est pas le cas. Il y a bien une action par jeton, ce qui a une grande importance en fait. En général, l'action va consister à progresser sur le plateau en jouant donc des cartes avec les symboles requis, sachant que pour atteindre un village, il faut nécessairement jouer 2 à 3 symboles, donc 2 à 3 cartes. Le twist maintenant. Là où le jeu devient intelligent et trouve tout son intérêt, c'est dans le blocage, qu'on peut donc mettre en place pour gêner son adversaire et dans le contrôle de la zone centrale du paysage. Parce que cette zone-là va déterminer le nombre de cartes que vous allez piocher à chaque tour. De base, on en pioche 2 et si on place ces 3 jetons sur les zones centrales du plateau, on va pouvoir donc en piocher une de plus par pion positionné correctement. Et donc piocher jusqu'à 5 cartes. Donc entre 2 et 5 cartes, il y a quand même une grosse différence. Et qui va beaucoup jouer sur la maîtrise de la pioche justement, et donc du hasard. Un autre élément qui vient perturber les joueurs, c'est le fait que les chemins sont cachés. Or, les jokers peuvent être utilisés pour regarder les chemins d'une tuile paysage. Évidemment, certains chemins ont plus de chances de rapporter plus d'argent, mais c'est une question de probabilité. Alors, jouer un joker ou faire confiance au proba, le choix n'est pas toujours évident. Et c'est en fonction des cas, en fait, qu'un choix ou l'autre va devenir pertinent. Enfin, chaque joker joué fait avancer le drakkar sur la côte, précipitant un peu plus la fin de la partie, puisque celle-ci arrive lorsque le drakkar a parcouru 2 fois les 3 grandes tuiles de paysage, soit une fois le recto et une fois le verso de chaque tuile. En fait, lorsque le drakkar arrive au bout du plateau, on prend la première grande tuile de paysage, donc celle qui est la plus à gauche, on la retourne sur son verso et on la pose au bout du plateau, donc à droite. Ainsi, on révèle la continuité du paysage, de nouveaux villages, etc. Mais que se passe-t-il si j'ai laissé un pion sur cette tuile ? Bien, il saute. Pouf, à la baille. Enfin, il disparaît, quoi. Mais on peut le récupérer au prix d'une action en dépensant un joker, qui va donc faire avancer le drakkar. Vous suivez ? Et ça, parfois, ça peut vous arranger, et parfois pas. Là aussi, il y a une certaine maîtrise à avoir avec ces cartes joker, parce qu'elles vont pouvoir typiquement précipiter la fin de la partie, ou si vous les gardez en main, vous allez pouvoir conserver un peu la maîtrise de cette fin de partie, quoi. Bref, mécaniquement, il s'agit d'un jeu de parcours qui s'appuie sur une mécanique de collection, avec du blocage, beaucoup de hasard quand même, dans la pioche, dans les chemins qui mènent au village. Ça reste un hasard qui est contrôlable, mais pas toujours. Honnêtement, il peut arriver qu'un joueur soit bloqué, c'est arrivé à ma femme. Ça donne une partie quand même à oublier. Et donc, ce quand même malgré les cartes double terrain et les jokers. Du coup, je pense quand même que ça doit arriver relativement rarement. Malheureusement, j'ai eu le cas. Alors on m'a suggéré, Stéphane en fait m'a suggéré peut-être de donner la possibilité dans ce cas-là de jeter deux cartes ou trois cartes de quelconque en fait pour remplacer un symbole. Ça peut être une piste si vraiment on trouve que ça arrive fréquemment. Ce que je pense du jeu, alors c'est un jeu qui est assez décrié parce que quand même avec un 5,1 sur BGG, je pense que ça doit être un des jeux les plus mal notés de Uwe Rosenberg. Donc on peut pas vraiment dire qu'il trust le haut des classements. Il n'a pas fait l'unanimité non plus chez les reviewers américains. Mais voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui vaut la peine d'être essayé. Ça peut être un jeu très punitif, comme Rosenberg sait les faire. En même temps, c'est un jeu qui peut être prêt à la cool, joué en 20 minutes, et là il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. À partir de 7 ans, nous dit la boîte, et là aussi je pense que c'est tout à fait jouable à 7 ans. Finalement, c'est un jeu qui peut être une bonne initiative, je pense aux aventuriers du rail en fait, auquel il me fait penser, sur certains aspects en tout cas, avec un peu plus d'aléas, et surtout beaucoup plus court. Voilà, donc je pense que c'est un jeu parfait typiquement pour jouer entre père et fils, ou entre mère et fille, hein, évidemment, ou mixer comme vous voulez, typiquement plus qu'en couple en fait, du fait de son accessibilité, et voilà, et donc moi je pense que je vais le conserver pour jouer avec mon fils dans 5 ou 6 ans. Alors, Endlist, c'est un jeu pour deux joueurs, uniquement, de Uwe Rosenberg, qui est édité chez Mayfair et chez Lookout. Il est disponible chez Philibert au prix de 17,95€ pour l'édition Mayfair, en anglais donc uniquement. Et je n'ai pas encore entendu parler d'une édition française. À la prochaine, et d'ici là, jouez bien.
Ouais, je suis deg, il y a beaucoup trop de boulot. Les lutins qui fabriquent les cadeaux, s'occuper des reines qui puent. Et le pire, c'est que je dois lire et écrire des lettres, mais à la main, quoi.
Hey, tu croyais quoi? Que je bossais qu'un seul jour par an, et le reste planqué en RTT? Que tout le reste se faisait par magie?
Ouais, je croyais un peu ça, ouais. Ah, j'ai grave le seum, quoi. Moi, vous croyez que je suis venu ici pour me les geler? En plus, Pôle emploi, il me remboursera jamais, quoi. Et puis, il n'y a même pas de 4G ici. Allez, moi, je me casse, hein. Tchao, le mytho.
Mais, petit. Petit, reviens. Oh. Ah ben voilà, encore tout seul cette année, mais je vais être obligé d'utiliser la magie de Noël pour avancer, comme chaque année. Et après, on me reproche mon manque d'innovation. Ho ho!
I'm dreaming of a white Christmas. Just...
Vas-y, scooter de merde! Voilà, avec ce froid, il démarre pas. Je savais que j'aurais dû rester autour de la table avec Guylaine, Aurélien et Pascal à parler de mécanismes de jeux de rôle.
Tu veux savoir comment ça marche? Viens autour de la table avec Pascal, Guylaine et Aurélien.
Bonjour et bienvenue pour cette deuxième chronique proxy jeu au coin de la table. On est toujours là pour parler de mécanique de jeu de rôle, d'influence, de trucs comme ça. Et je suis toujours Pascal et je suis toujours avec Aurélien et Guylaine.
Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Guylaine.
Bonjour Guylaine, bonjour Aurélien.
Bonjour Pascal, voilà. Bonjour Aurélien.
La boucle est bouclée.
C'est bon, on peut continuer. Donc, bon, la semaine dernière, on n'avait pas tout à fait fini de parler des influences des règles. Et on n'avait surtout pas abordé le point qui nous intéressait vachement, c'était comment on influence un MJ, ou comment est-ce qu'on l'aide ou pas.
Donc nous ne parlerons que des jeux à MJ aujourd'hui.
Exactement.
C'est un choix.
Donc pour commencer, on peut déjà parler des mécanismes vraiment au niveau de la résolution qui vont venir influencer le MJ, voir comment il va devoir un peu céder du terrain. On a souvent cette image du MJ omnipotent comme un dieu qui contrôle absolument tout ce qui se passe et qui peut dire non à tout. Mais je trouve qu'il est intéressant de se pencher sur les mécanismes qui le formalisent vraiment.
Bah, par exemple, moi j'ai un petit exemple sous la main qui est l'exemple du jeu Landfeust de Troy, enfin l'univers de Troy avec l'Orfeust Troll de Troy, etc. Qui est un jeu qui a un petit mécanisme sympathique, peut piquer des verres. Donc la résolution se fait avec du lancer de D6, hein, tout ce qu'il y a de plus cubique. Sauf que le maître jeu a à sa disposition un petit tas, un petit pool de D6 supplémentaires qui sont les dés de crasse. Et du coup, quand les joueurs font une action particulièrement sympathique ou que le MJ veut leur mettre du bâton dans les roues, il peut prendre des dés de crasse autant qu'il veut, les lancer et déduire de ces dés de crasse autant de succès qu'il y a de succès dans les jeux que les joueurs ont fait. Sauf que la contrepartie, c'est que les joueurs derrière récupèrent ces dés et le mettent dans un pool personnel de joueurs et qui peuvent réutiliser à tout moment en disant contre crasse et ajouter leurs dés à leur lancer de dés. Donc ça crée une sorte de tension entre le maître jeu et les joueurs où les joueurs peuvent reprendre un petit peu le contrôle et le maître jeu est un petit peu agacé par ses joueurs et le contraire, et ça crée une super ambiance autour de la table, c'est génial.
C'est un peu le peuple qui se soulève contre l'autorité.
Voilà, c'est ça.
Il y a un truc sympa, c'est que ça reste une mécanique aléatoire, donc le MJ peut complètement foirer sa crasse, et le joueur peut complètement foirer son retour de karma.
Tout à fait.
Et du coup, ça peut faire double coup de bâton. J'ai voulu vous envoyer des crasses, mais j'ai complètement raté, et les joueurs, en retour, le surpourrissent complètement.
Exactement.
Et les fourrir autour de la table, parfois un peu mesquin.
Vastburg a aussi une mécanique assez sympathique, donc le jeu Vastburg tiré du roman de Cédric Ferrand du même nom, où on incarne des gardoches dans une cité médiévale crasseuse et pourrie jusqu'à la moelle.
C'est journée de la crasse aujourd'hui.
Complètement. Et donc toujours résolution tout ce qu'il y a de plus cubique avec des D6, sauf que le résultat du D6 va indiquer la façon dont le MJ doit commencer la résolution de l'action. Je m'explique. Chaque action tentée par les joueurs doit être formulée comme une question fermée, type « Est-ce que j'arrive à le faire tomber de son cheval ?» On lance le D6. Si le joueur fait un résultat de 1, le MJ doit commencer la résolution par « Non » et pour induire l'échec du joueur. « Non, tu réussis pas à le faire tomber de son cheval. » Et en plus, tu glisses dans la gadoue et t'es couvert de boue.
Et c'est terrible.
Et c'est terrible. C'est un échec critique. Le 3 sera un non, mais non, t'arrives pas à le faire tomber de son cheval, mais par contre, tu avec ta botte, tu lui envoies de la gadoue dans la tronche, il est ridicule devant la foule, etc. On aura une gradation des mécaniques de résolution selon le résultat du dé. Un 5 sera un oui, un 6 sera un oui et, donc oui, t'arrives à le faire tomber de cheval, et en plus, il glisse devant tout le monde, il bave, il a de la boue dans les cheveux, etc.
C'est une mécanique qui est intéressante. On la retrouve dans Poké's Pearl et elle permet à la fois d'ajouter un petit peu de... comment dire,
De piment,
voilà, exactement. Ça rajoute sa force aussi à étoffer, en fait, ce qu'on raconte, à étoffer le monde. Et en même temps, ça ouvre à la négociation.
Ça ouvre à la négociation, d'autant qu'il est assez intéressant de céder, justement, ses compromis aux joueurs. En laissant la parole aux joueurs. Donc, alors, t'as fait 5, vas-y, t'as fait 3, vas-y, raconte. T'as fait 4, vas-y, raconte comment tu réussis, mais machin. Il y a tout un mécanisme de négociation qui se met en place, surtout dans les actions d'opposition entre joueurs. Ou pareil, ça donne lieu à de jolies négociations.
Et puis ça formalise aussi quelque chose que finalement on a tendance à faire. C'est-à-dire que quand on fait un 1, généralement ça se passe pas très très bien pour les joueurs. Et là on va dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe exactement. Et ça ouvre peut-être une contrainte qui fait naître de la créativité dans certains cadres, puisqu'on peut même s'affranchir du MJ, si j'ai bien compris, dans certains cas. N'allons pas jusque là. Pauvre MJ, c'était son émission et ça
laissait. Voilà, pour enchaîner sur la négociation, je voudrais reparler de Bimbo, dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Un des trucs intéressants dans Bimbo, c'est le fait que les actrices ont tout un pécule. Quand elles gagnent de l'argent en faisant leur rôle. Et ce pécule, typiquement, il sert à plein de choses. Hein. Ça fait un peu office de point d'XP aussi entre les parties. Mais typiquement, il sert à une chose, c'est quand le MJ décrit une action. Du genre l'actrice dit je tire sur la voiture et tout avec mon FAMAS et le MJ dit ok tu réussis, la voiture se plante dans le caniveau et les mecs sortent et avec leurs armes automatiques et l'actrice fait quoi, non mais c'est ridicule, c'est nul, il faut que la voiture elle explose et tout, et le MJ répond bah ouais, mais on n'a pas le budget.
Puisque le MJ a vraiment le rôle de metteur en scène.
Le MJ a le rôle de metteur en scène, exactement. On n'a pas le budget et tout. L'actrice peut dépenser son argent pour dire ok, c'est pas grave. j'achète une voiture à 1 000 $, on la fait péter, ou alors j'achète un hélicoptère, j'achète un porte-avions, enfin j'achète un décor de porte-avions, voilà.
Et parce que le réalisateur est plus proche de Ed Wood que de Michael Bay finalement.
C'est ça. voilà. Pour être précis, je pense que c'est plus, moi je ferais plus référence à Trauma.
Ouais, d'accord.
voilà.
Mais je trouve ça assez intéressant de toute façon comme postulat de base que le MJ au final, plus qu'un MJ, est un réalisateur. Ouais. Et là, je trouve que pour le coup, c'est une vraie mécanique qui a une vraie influence sur son ressenti en tant que joueur, parce que c'est le maître du jeu, mais c'est surtout un joueur autour d'une table, et où au final, il a un vrai rôle avec une bonne implication. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant comme point de vue et comme approche pour le MJ.
Ouais, parce qu'il pourrait même avoir envie de faire plus, mais il ne veut pas parce qu'il n'a pas le budget, donc ça crée un cadre.
Il en abîme de la vie.
Voilà. Sachant que c'est l'excuse classique, ça sert à remplacer l'excuse classique de j'ai pas prévu ça dans mon scénario.
C'est ça. Et en plus, c'est une belle ode au capitalisme. moi, je vais embrayer sur un petit jeu de société, une fois n'est pas coutume, ou peut-être si, en fait, pour parler du jeu Mysterium, dont on a déjà parlé, enfin pas nous, mais Proxy Jeux, lors de la chronique précédente, qui est un mélange entre Dixit et le Cluedo, mais faut-il encore présenter ce jeu. Et on a un maître du jeu qui est aussi un joueur qui est mort, qui est un fantôme, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas faire de signe de la tête, rien du tout, communiquer, si ce n'est par l'envoi de cartes oniriques qui représentent des rêves aux différents joueurs. Et donc les joueurs vont devoir se débrouiller avec ces cartes qui généralement sont un peu tordues pour pouvoir essayer de deviner d'autres cartes qui sont des personnages, des lieux, des armes, des choses comme ça.
Pour résoudre un mystère.
Pour résoudre un crime en fait. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que la mécanique de Mysterium est faite de telle façon que le maître jeu, donc le fantôme, va devoir échanger avec ses joueurs sans pouvoir communiquer, va devoir ajuster ses actions d'une façon un petit peu bricolée. C'est-à-dire, il voit les joueurs débattre entre eux, il voit quelqu'un dire « Ah bah là, il m'a envoyé une carte bleue, du coup ça renvoie à la couleur bleue, alors que moi en tant que fantôme, je me disais, mais non, pas du tout, j'avais juste envie de faire référence à la petite carte qui est à gauche, à droite, machin. » Et donc, on n'est pas du tout sur le même raisonnement, sauf que je ne peux pas du tout m'expliquer parce que je suis le fantôme, je suis mort. Donc, je vais devoir envoyer d'autres cartes qui correspondent à ce que les joueurs pensaient. Sauf que du coup, si j'envoie des cartes de la même couleur, le joueur peut se dire, ah mais non, il ne résonne pas en couleur, et du coup, c'est retour à zéro parce que je pensais que le joueur pensait qu'en fait le fantôme pensait. Et
dans un ajustement perpétuel.
Voilà, exactement. Je m'ajuste au joueur, mais c'est vraiment la mécanique qui implique ce comportement.
C'est aussi un peu à concept, du coup.
Ah oui, un petit peu.
Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour ce jeu-là, on est dans un jeu de société à MJ où il y a une vraie coopération et où le MJ est vraiment en train de toujours s'adapter aux joueurs, etc. Alors que dans les jeux de société, la plupart du temps, quand il y a une dichotomie MJ-PJ, il y a vraiment une opposition. C'est du donjon, avec des petites cases, des petits bonhommes, et le MJ, son but, c'est de péter la gueule au PJ, et les PJ, leur but, c'est de dégommer du monstre. Point barre.
Ouais.
Et souvent, ça se résume un peu à ça. Je simplifie évidemment, je vulgarise, mais souvent, on a quand même cette opposition claire et nette dans le jeu de société qu'on n'a pas du tout dans le jeu de rôle, puisque dans le jeu de société, on a très souvent l'issue de victoire.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le jeu de société, enfin, un gagnant, un perdant.
Voilà, c'est un peu une obsession dont on essaye de se dégager, mais...
Obsession. Et c'est vrai qu'il y a des jeux hybrides intéressants comme Oui, Seigneur des Ténèbres, justement, où on a finalement un MJ qui, pour le coup, est omnipotent, puisque c'est le maître des ténèbres, et que les joueurs sont de pauvres petits gobelins sbires qui doivent expliquer pourquoi est-ce qu'une mission a raté. Et les gobelins vont devoir plaire aux joueurs pour ne pas perdre, au MJ, et ne pas perdre la vie, en fait, sous les coups horrifiés du maître des ténèbres, les coups horribles.
Voilà. Donc là, on est encore dans une mécanique qui vient vraiment influencer sur le ressenti du MJ, puisque le but, c'est de séduire, au final.
Tout à fait.
Ouais. Moi, j'aimerais revenir sur l'omnipotence, parce qu'avec Guylaine, on a un petit peu un petit contentieux, qui est que, moi, je suis un peu pour l'omnipotence, parce que en tant que MJ, tu fais à peu près tout ce que tu veux, et puis tu réagis aussi en fonction des joueurs, mais globalement tu as tous les droits ouverts. Moi, c'est ce que j'aime dans, par exemple, le Cypher System Luminera, parce que c'est un système complètement asymétrique. Déjà, c'est assez rare dans le jeu de rôle. Souvent, on prend donjon, les monstres ou les PNJ ont des capacités et des statistiques qui sont asymétriques à celles des joueurs, on va dire. Pareil dans le monde des ténèbres, pareil dans j'en passe et des meilleurs. Cypher System, c'est simple, que ce soit une porte, que ce soit un mec, que ce soit un objet, que ce soit la météo, tout un niveau qui est complètement improvisable, puisque c'est noté de 1 à 10, Donc, est-ce que c'est difficile de comme ça ou comme ça? Tu prends un chiffre de 1 à 10, sachant que 5 c'est déjà assez compliqué et que 7 c'est la galère parce que, en fait, l'astuce c'est que tu multiplies ce chiffre par 3 et ça fait le chiffre atteint avec le dé. Donc, si t'as un mec.
Donc, un D20, un D à 20 faces.
Un D à 20 faces, exactement. Si t'as un mec de niveau 7, ça veut dire qu'il faut faire 21 avec le D à 20 faces.
C'est compliqué.
C'est compliqué. Donc, qu'est-ce que tu fais? Les joueurs, par contre, eux, en face, ils ont le truc pour faire baisser le niveau. Mais là où c'est vachement bien, c'est que quand même, cette histoire de niveau, ça t'offre la possibilité de dire exactement, il se passe ça à tel moment, n'importe comment. Tu peux improviser n'importe quoi parce que ça ne te prend pas plus d'un quart de seconde ou 5 secondes si c'est un truc un peu complexe pour savoir de quel est le niveau d'un truc. Et donc, du coup, tu offres ça plus la mécanique dont on parlait d'avant des intrusions. Ça offre vraiment des armes d'improvisation au MJ.
Alors l'intrusion, on en a parlé déjà ou...
Oui.
D'accord, ok, je ne suis rien, c'est horrible.
Alors, oui, mais. Non, je trouve que ce système est intéressant, mais je trouve que l'omnipotence a ses limites, et je trouve que c'est pas ça le plus intéressant en jeu de rôle. Pour moi, justement, ce qui est intéressant, c'est la négociation et l'équilibre. L'omnipotence, pour moi, est incompatible avec la négociation.
Ouais.
Et moi, c'est pas là.
C'est en fait l'omnipotence. Bon, quand je dis que c'est une bonne chose, c'est pas. Ça dépend évidemment comment tu t'en sers.
Voilà. L'omnipotence pour faire le scénario comme j'avais décidé qu'il devrait se passer, non.
Non.
L'omnipotence pour rééquilibrer une partie qui est en train de partir en couille et où les joueurs commencent à s'ennuyer, oui. Mais à ce moment-là. Et nous en avons abordé la question, c'est peut-être que tu joues au mauvais jeu. Mais ceci n'est pas le sujet du podcast du jour. Non, après...
Est-ce que tu joues au mauvais jeu? Ce sera le sujet d'un podcast
à venir.
teasing.
Après, il y a aussi toute la question de l'écran de jeu, je pense qu'on peut aborder, qui est un outil pour le MJ, qui est, ok, ce n'est peut-être pas une mécanique, mais en tout cas c'est un accessoire qui pour moi a vraiment une implication émotionnelle pour le MJ sur la tension qu'il va donner dans la partie et que lui-même va ressentir. Quand il va lancer son dé, le fait que les joueurs ne sachent pas s'il a réussi ou loupé son action, donc ce que les joueurs voient et perçoivent, vous entendez un bruit derrière vous, ils ne savent pas si c'est issu d'un échec ou d'une réussite, ça a une conséquence sur le jeu. Si tu fais un échec critique, que tes joueurs le voient et que tu leur dis, vous entendez un bruit derrière vous, les joueurs savent qu'ils risquent pas grand chose vu qu'a priori c'est une action qui a raté.
Ouais.
Et vont peut-être y aller un peu en mode, oh, on va voir ce que c'est, il a raté. Alors que si c'est juste, vous entendez un coup de feu derrière vous, peut-être te dire, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est mort, machin, alors que bon, non, en fait, j'ai juste raté alors qu'il y en a un qui était censé être blessé.
Ouais, donc le secret catalyse un peu l'imagination et aussi le plaisir du MJ de dire, je contrôle la chose.
Et du coup, au final, on aura sans doute des réactions plus authentiques de la part des personnages.
Voilà, j'ai envie de dire, de mon point de vue, si t'as envie qu'un des joueurs soit blessé, il est blessé. Parce que en fait le fait de le blesser, c'est pour moi ça va encore comme situation. C'est un bon exemple parce que c'est quelque chose qui change le statu quo.
Ouais.
Voilà, ça apporte une difficulté aux joueurs et les joueurs vont devoir composer. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils mettent le mec qui est blessé en sécurité? Est-ce que le mec qui est blessé se shoot au stéroïde et fonce dans le tas? Est-ce que voilà.
Je pense que les deux sont pas incompatibles en fait.
Oui.
Je pense que les deux techniques sont pas incompatibles au sein d'une même partie.
De toute façon, c'est un spectre. Hein, choisi,
voilà.
Donc on va sur le terrain du consensus. Moi, je vais exploiter les glorieuses 30 secondes qui nous restent pour parler d'un petit exemple qui me tenait à cœur, qui est l'exemple du jeu de société Anabi, donc jeu coopératif où en gros on doit construire un feu d'artifice chacun, sauf qu'on ne voit pas ses propres cartes, on voit les cartes des autres.
On tient ses cartes à l'envers.
Exactement. Et donc le principe de ce jeu, c'est que comme dans Mysterium un petit peu, on ne peut communiquer que sur des choses très factuelles, donc les numéros ou les couleurs. Et c'est très frustrant en fait, notamment quand on est donc un maître jeu, parce qu'il n'y a pas de MJ, désolé Guylaine, je n'ai pas fait ce que tu avais dit, mais il y a une personne qui va expliquer le jeu, qui va expliquer les règles, et cette personne en général a une plus grande maîtrise du jeu que des joueurs qui peuvent être débutants, si on prend cet exemple-là. Et le rôle, enfin finalement, la mécanique du jeu implique une sorte de frustration ou de travail sur soi, ça dépend comment on le prend du MJ, qui va devoir se dire, alors faut que j'arrive à respecter les règles et ne pas leur dire des choses alors qu'ils ont des stratégies perdantes. Voilà, c'est ça. Ça n'est pas possible, sinon tu triches et du coup c'est peut-être encore pire, mais bon, ça sera encore un sujet d'un autre podcast. Voilà.
Et ça pose la question entière de est-ce que quand on joue aux jeux de société, le maître de jeu n'est pas au final celui qui explique le jeu?
Un autre podcast.
Bon, alors je sais qu'on a plus beaucoup de temps, on étend un petit peu parce qu'il y a un truc dont je voudrais te parler. La mécanique des règles, comment leur efficacité, comment elles se traduisent en fait en termes de jeu, influence Mais un truc intéressant aussi, c'est la façon dont aussi les choses sont écrites influence.
Tout à fait.
Voilà. Par exemple, moi je pense à Feng Shui, où les mecs qu'on tabasse par groupe de 10 s'appellent des mooks, donc vraiment des mecs sans importance. Par contre, tous les mecs qui sont au-dessus des mooks sont appelés des personnages nommés. Donc déjà, comme ce sont des personnages nommés, ça va influencer le fait que l'MJ va leur donner un nom, donc une histoire, il va imaginer un look, etc.
Il y a un impact émotionnel un peu plus important pour l'MJ. Ouais.
Bah, c'est dans, même dans n'importe quel scénario de jeu de rôle, quand tu es MJ et que tu le lis, à partir du moment où un PNJ a un nom, tu sais qu'il est important, tu l'investis émotionnellement un peu plus, même dans ton interprétation. quand tu vas faire du roleplay sur ce PNJ-là, tu vas être plus chargé émotionnellement que quand c'est Roger, tu viens de lui inventer son nom il y a 5 minutes.
Ouais, voilà, bah, c'est une règle en fait qui est implicite, mais du coup, dans Feng Shui, elle a été explicitée quasiment.
Ouais. C'est intéressant de l'expliciter. C'est intéressant, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, je pense, au final, le fait de donner un nom à un personnage. Pardon. Ouais. Et voilà.
Et voilà. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui.
La prochaine fois, nous vous parlerons sans doute des mécaniques de résolution, de la diversité possible.
Voilà. Parce qu'il n'y a pas que les dés dans la vie.
Il n'y a pas que les dés dans la vie. Et oui, ce n'est pas qu'une rumeur.
Même si j'adore les dés, il n'y a pas que ça dans la vie, ou il n'y a pas que les rouler pour faire un truc en particulier qui compte, on peut faire d'autres choses avec.
Waouh!
Donc, eh bien en attendant, au revoir et jouez bien.
À bientôt!
À la prochaine fois!
Merci à tous les chroniqueurs et les gens qui font tourner ce podcast. Merci aussi à vous, les Patreons, de nous soutenir financièrement. Et merci à vous tous, chers auditeurs. Et de la part de toute l'équipe de Proxy Jeux, nous vous souhaitons une bonne année 2016.